Radio. Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Mathieu, bien sûr, je veux revenir sur ce qui s'est passé, le recul du gouvernement avec toi, mais je veux prendre justement un pas de recul, c'est-à-dire pas regarder ça le collé sur exactement la situation, sur les faits, mais essayer de mettre ça dans un contexte plus large, plus philosophique. Et selon moi, Mathieu, ça montre à quel point les démocraties sont extrêmement fragiles face à des gens qui ont une foi inébranlable.
Ah ben c'est exactement comme ça que je voulais t'en parler. C'est-à-dire qu'on est devant une manifestation, premièrement, de l'État qui voulait faire une démonstration d'autorité et qui s'en montre incapable au moment de trancher. Or, il n'y a rien de pire pour lorsqu'on veut faire un geste de souveraineté que de reculer au moment où il faudrait aller jusqu'au bout. De l'autre côté, ça nous montre comment une minorité idéologiquement très structurée, ou à tout le moins très résolue, est capable de faire plier tout un système en décidant de tenir tête à la définition généralement admise de l'intérêt général du bien commun. Et pour moi, ce qui s'est passé là, dans le cadre en plus de la gestion d'une pandémie, qui est quand même quelque chose d'essentiel, là. C'est-à-dire on est dans un moment historiquement exceptionnel, même si globalement on en sort, même si globalement ça va mieux, on est encore dans une situation d'exception. Voir l'autorité de l'État ainsi ridiculisée par une minorité qui se donne le droit de prendre en otage le système et qui nous montre encore une fois à quel point les minorités radicales font l'histoire, c'est riche de leçons pour notre vie politique, quoi qu'on pense par ailleurs du fait que le gouvernement, est-ce qu'il a bien fait de reculer au dernier moment parce qu'il s'est dit qu'on met le système à les capoter, ça c'est autre chose.
Ce sont
des choses pour moi, ce qui se joue, c'est une leçon de science politique devant nous. Les minorités radicales font l'histoire et on en a encore une fois la preuve.
Et tu as la raison contre la foi. Et c'est ça, là, parce que c'est un phénomène sectaire, c'est un phénomène religieux, là, les gens qui s'accrochent là, au discours anti-vaccin. Donc, la raison contre la foi. Et la raison doute. Hein, le doute, ça fait partie de la raison. En fait, c'est sa pierre d'assise. Les gens raisonnables doutent toujours. Or, face à quelqu'un que la foi et qui est inébranlable et qui est solide comme le roc et qui ne doute jamais, bien, t'es condamné à perdre. Presque.
En fait, et moi, je dirais que là-dessus, il faudrait avoir retrouvé ce qu'on pourrait appeler paradoxalement la certitude de la raison. C'est-à-dire, lorsque la raison en vient à douter de ses propres fondements, elle bascule dans le relativisme. Elle en vient à se dire que rien n'existe. Hein? C'est-à-dire, quelquefois aujourd'hui, au nom du doute majusculaire et conquérant, j'en ai souvent parlé à ton micro, on en vient à douter de l'existence de l'homme et de la femme, on en vient à douter de l'existence des nations, on en vient à douter de l'existence du monde et de la réalité. Et pour reprendre la formule de Chesterton que j'aime particulièrement, je crois que c'est dans Orthodoxie ou dans Hérétique, mais je pense que c'est Orthodoxie, il dit « Nous sommes en voie de créer une génération qui doutera même de la table des multiplications. » Bon, alors, il y a cette espèce de raison qui se retourne contre elle-même. Or, la raison a engendré, me semble-t-il, au fil de l'histoire, des résultats. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pathologie de la raison en passant. Le rationalisme, à certains égards, peut devenir une pathologie de la raison quand on croit que toute l'existence, justement, doit être quadrillée intégralement, qu'il n'y a pas de part au mystère dans l'existence, que l'amour est en fait le résultat d'un mouvement chimique dans le cerveau et tout ça. Bon, il y a aussi une pathologie de la raison. Mais sur le fond des choses, je pense que sur des grands plans de conquête scientifique, de conquête rationnelle, la raison devrait se vouloir un peu plus conquérante, peut-être au moins un peu plus sûre d'elle-même. Mmh. Or, elle a tendance, les démocraties sont souvent en situation d'incapacité devant des minorités fanatiques qui imposent leurs dogmes et nous ne savons pas comment leur répondre. Nous ne savons pas comment répondre aux dogmes sinon en multipliant les points d'interrogation, croyant par là faire preuve d'ouverture. Mais on ne fait pas d'ouverture devant des fanatiques. Et ce qui se passe dans ce cas-là, moi, comme je dis, sur la question de la COVID, je pense pas avoir été, je le dis, je peux en être témoin, j'étais pas le plus fervent confiniste, disons ça comme ça. Je trouvais qu'on allait trop loin là-dedans, qu'on tenait pas compte du fait que les besoins de l'âme humaine, les besoins sociaux étaient aussi importants, qu'il fallait aménager des espaces pour que la vie se poursuive. Bon. Mais l'envers de ça, c'est que j'ai toujours considéré que le vaccin était la plus grande réussite qu'on pouvait avoir dans cette histoire, que le vaccin, c'était la vraie voie de sortie. Et autant que J'étais sévère envers le gouvernement quand il pensait qu'on avait une existence, chacun d'entre nous, d'encaserner dans nos maisons jusqu'à la fin des temps. Autant que de l'autre côté, il n'y a pas d'ambiguïté sur la vertu du vaccin. Et moi, sur bon, alors le vaccin obligatoire pour la population dans son ensemble, non, d'accord, je comprends. Mais pour le personnel de la santé, ça va de soi. C'est même pas une question, j'oserais dire. Le personnel de la santé, s'il y en a un qui devrait y adhérer presque naturellement et spontanément, c'est le personnel de la santé. Et qu'un doute surgisse de cette nature dans le système de santé, ça nous en dit beaucoup, je crois, sur la permanence de croyances archaïques et irrationnelles dans l'ordre social, et on le voit sur ce coup-là. Mmh. Et comme je dis, moi, je vois en France, si me permet ce moment de sur le mode témoignage, je vois des gens particuliers, mais ça c'est surtout chez des intellectuels, qui ont refusé de se faire vacciner, non pas parce qu'ils étaient contre le vaccin en soi, mais parce qu'ils étaient, ils disaient, ben on est contre le pass sanitaire, on est contre la démarche obligatoire, donc on y résiste. Sur le plan individuel, je suis prêt à discuter un par un. Mais là, c'est pas de ça dont on parle ici. On est devant un mouvement des croyances régressives, des croyances archaïques qui bloquent un processus d'immunisation collective. Et on n'est plus devant des cas de discussion individuelle sur le mode du séminaire intellectuel intéressant. On est devant une forme d'obstacle et le gouvernement a buté devant cet obstacle. Pour moi, il y a plein d'éléments dans ce qui vient de se passer là. Ce n'est pas purement pragmatique, la décision du gouvernement. C'est un révélateur, justement, de l'impuissance de nos démocraties.
Tout à fait. Écoute, j'aime bien ça. Tu parles de raison conquérante, de certitude de la raison, que dire, à un moment donné, de toujours arrêter de douter de soi-même. Et ça, c'est une question que je me pose souvent sur le système d'éducation. On apprend aux jeunes à critiquer notre histoire, critiquer le pouvoir, critiquer notre démocratie, tout ça. Ce serait bien aussi qu'on apprenne à nos jeunes à célébrer, en disant, regarde la démocratie, comment c'est beau, comment c'est quand même un bon système, à célébrer les progrès dans l'égalité qu'on a eu. Oui, il y a eu du racisme, mais regarde les progrès qu'on a fait pour les femmes et tout ça, à célébrer nos victoires. On est tout le temps là en train de souligner ce qui va pas. Ce qui fait qu'on crée des jeunes qui ont un cynisme envers leurs propres valeurs, leur propre histoire, leur propre civilisation, leur propre pouvoir.
Oui, puis j'ajouterais qu'il y a une forme de division, de très étrange, mais de division de la sensibilité. C'est-à-dire, d'un côté, la raison est là sur le mode scientifique, mathématique, et ainsi de suite, mais de l'autre, la question du sens est complètement abandonnée. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à se réfugier, justement, dans des sens compensatoires, des crises existentielles à répétition, à se demander, justement, est-ce que l'homme et la femme existent vraiment? Est-ce que j'ai vraiment mon sexe ou je pourrais pas m'identifier à un autre? Est-ce que, finalement, je pourrais pas m'identifier à des traditions les plus exotiques qui soient qui me confirmeraient que j'existe en passant par le chemin de l'étranger? Moi, je pense qu'il y a moyen de renouer avec cette idée que la raison, dans l'histoire de la civilisation occidentale, bien, elle puise dans l'histoire de la philosophie. Elle s'est déployée à la fois dans l'Empire, dans le domaine de l'architecture, dans les sciences, dans la construction de la démocratie. Je ne veux pas présenter une vision poétique de la raison, ce n'est pas la question, mais elle est l'expression, je crois, dans notre cas, l'expression la plus remarquable d'une certaine dynamique de civilisation. C'est avec notre civilisation qu'il faut renouer à certains égards. Si l'Occident était si puissant dans l'histoire, c'est pas parce qu'on était une civilisation seulement conquérante et prédatrice. Il y a eu rien que ça, des civilisations conquérantes et prédatrices dans l'histoire. Ce qu'il y a eu, c'est le pari sur l'universel, le pari sur le rationnel, le pari sur la raison. Ça, il y a quelque chose d'original dans le pari occidental là-dedans, qui s'est donné à la fois dans la science, dans la démocratie et dans une certaine lecture de l'économie qui nous a fait de nos économies des économies particulièrement prospères et créatrices. Quand on regarde tout ça, c'est une civilisation qui, malgré ses défauts, je ne la crois pas parfaite, cette civilisation, je lui trouve plein de défauts à temps plein, mais c'est une civilisation qui mérite d'être aimée. Et ce que l'on a vu dans cette espèce de résistance d'une partie du corps médical, du personnel de la santé, c'est comme si c'était une espèce de, on a laissé prospérer des croyances étranges au fil des ans qui se sont coagulées dans une mouvance qui, cette fois, est anti-vax et qu'on cherche quelquefois à madouer avant, c'est des gens qui posent des questions et ainsi de suite. Il faut à un moment donné avoir une forme de fierté, de fermeté tout à la fois et de pas faire semblant qu'on est devant un point de vue rationnel quand on ne l'est pas.
Et écoute, en terminant, est-ce que je suis paranoïaque, Mathieu? Parce que moi, je me dis, les gens qui sont contre la loi 21, par exemple, ou qui sont contre les lois pour protéger le français, la loi 101, la loi 96, ils ont certainement pris des notes, là, parce qu'ils vont apprendre de la victoire des coucous, là, en disant, il faut se radicaliser, là, puis quand tu tiens ton bout, tu peux faire plier le gouvernement. Je suis convaincu que ces gens-là prennent des notes.
Ben moi, j'irais plus loin. Je pense qu'en tant que tel, les minorités radicales font l'histoire. Et de l'autre côté, on se dit, oui, il y a la majorité silencieuse, mais la majorité, elle est plus silencieuse que majoritaire. Donc, devant ça, il va falloir, je crois, puis c'était une chose importante pour les enjeux que tu viens d'évoquer, retrouver du côté des partisans de la laïcité, des partisans de la nation, du français, une fermeté intellectuelle qui nous manque en ce moment. Les Québécois sont tellement... ont tellement désireux de toujours montrer qu'ils sont gentils, accommodants, tendres et ainsi de suite, qu'ils en deviennent rapidement impuissants. Je crois qu'en la matière, la fermeté sera nécessaire, et la fermeté n'est pas contradictoire avec l'ouverture d'esprit, c'est que simplement, il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on pense pour des questions essentielles.
Merci beaucoup. Écoute, je sais pas, demain, je sais pas si tu as lu aujourd'hui dans Le Devoir, Michel David sur Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qui dit arrêtez de toujours blâmer Paul Saint-Pierre Plamondon pour la déconfiture du PQ, c'est plus large que lui, c'est une désaffection des Québécois vis-à-vis le projet souverainiste. On pourrait s'en parler demain s'il n'y a pas d'autres choses qui se pointent le bout du nez.
Au grand plaisir à demain.
Super, merci Mathieu Bocquet.